Bonjour à tous, c'est Aurélien du blog Batteur sans limite. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Damien Schmitt avec moi. Salut Damien.
Salut, salut à tous.
On va parler de comment faire pour faire de la batterie et chanter en même temps. On va parler de ton projet Damenco, qui est tout frais, là, sur lequel tu es en ce moment, et aussi de l'application Is Your Teacher. Alors, on va continuer aussi avec ton actualité, hein, voir qu'est-ce que tu fais en ce moment. Tu fais énormément de choses. Je crois que tu fais partie certainement des batteurs français qu'à peu près tout le monde connaît, mais est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore?
Eh bien, bonjour, je m'appelle Damien Schmitt. Bonjour Damien! Et moi aussi, je suis batteur anonyme. Et voilà, que dire de plus? Que je suis batteur et que c'est une passion depuis tout petit, que je suis tombé dedans grâce à mes parents et que depuis, c'est toujours resté... Un amour avec l'instrument qui s'y dissipait à un moment donné, mais auquel je reviens plus que tout maintenant et surtout maintenant, en fait.
Ok, ouais, tes parents sont musiciens et t'as baigné dedans depuis, je crois que t'as commencé à 4 ans, c'est ça?
En fait, depuis toujours. En fait, à 4 ans, c'est mes premiers gigs sur scène puisque je remplaçais. On se passait la batterie avec mon père. Alors, c'était très rigolo. Mon père jouait tout ce qu'on appelait le moderne, alors que ce soit le disco, le rock, les cha-cha, les Madison, j'en passais des meilleurs. Et je jouais tout ce qui était musette, donc les valses, les marches, les passos, voilà. Et on se passait la batterie comme ça. Et puis bah les marches c'était facile c'était poum tchac poum tchac poum tchac poum tchac poum, tu vois, non?
Ouais.
Et puis les valses c'était pareil, poum tchac tchac poum tchac tchac poum tchac tchac. Alors quand j'ai c'est d'ailleurs très drôle, mais quand j'ai commencé à apprendre le 3-4 et vraiment le jazz pour le coup, je jouais plus du tout les valses de la même façon.
Ah ouais.
Bah ouais, du coup ça faisait... Ça devenait vraiment ternaire swing, quoi.
Ouais. Plus
Plutôt que
swing et
boum,
plus
tchac, tchac,
sophistiqué.
boum, tchac, tchac. Ouais, c'est ça.
Ouais. Ok.
Enfin, voilà. Donc, du coup, voilà, je suis vraiment tombé dedans petit. Et ma mère chantait dans l'orchestre et elle jouait l'accordéon et elle donnait des cours de piano et elle en donne toujours, d'ailleurs.
D'accord, génial. Donc ouais, un bon environnement pour devenir musicien, quoi. Parfait.
Oui, j'ai eu de la chance. Beaucoup de chance, ouais.
Ouais. Ok. Et donc t'as commencé avec la batterie, mais t'as aussi enregistré des albums solo où tu fais de la guitare là-bas, enfin où tu fais tout quoi,
Oui.
et où tu chantes aussi. Et dernièrement, en faisant des recherches, je tombais sur pas mal de choses où il était plus question de chant. Et j'ai eu le sentiment, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai eu le sentiment que vraiment ces dernières années, tu cherchais plus à développer tes capacités de chanteur plutôt que de batteur. J'imagine qu'à la batterie, tu as atteint un niveau de toute façon et une renommée assez énorme. Et maintenant, pour toi, le chant, c'est la prochaine étape?
Eh bien, non. En fait, je pensais vraiment. En fait, j'en ai eu comme un ras-le-bol de la batterie à un moment. Enfin, pas un ras-le-bol. En fait, j'avais soif d'une nouvelle expérience. C'était
Ouais.
surtout ça, parce que j'ai eu de la chance de pouvoir jouer avec des gens comme Jean-Luc Ponty, George Duke ou Béryl Lagrène, Alain Caron, des gens que j'ai écoutés petits. Et en fait, j'ai eu de la chance de la batterie. Ça m'a. J'ai fait le tour du monde. Et à un moment, je me suis dit. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et puis de plus qui va être très excitant, mais je me voyais pas avoir un groupe, par exemple, de jazz ou être leader en tant que batteur.
Ouais.
Et je me voyais plus chanteur. C'est aussi j'ai toujours adoré chanter et j'ai toujours fait ça. Et d'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, ouais, mon premier album, j'avais 16 ans quand j'ai fait mon premier album où je chantais et je jouais les instruments aussi d'ailleurs.
Ouais.
C'est pas une grande réussite, mais c'est assez rigolo. Et là, j'avais besoin d'autre chose. Et curieusement, c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé de faire The Voice. Donc l'émission de télé, donc c'était en 2012, et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à enregistrer les morceaux que j'avais en maquette, en fait, et à en faire des clips et des vidéos sur YouTube. Et depuis 2012, j'ai vraiment essayé de beaucoup plus chanter, de beaucoup plus axer la carrière sur le chant. Et d'ailleurs, j'ai enregistré un album qui va sortir l'année prochaine. Mais curieusement, j'avais peut-être besoin de passer par là pour me rendre, pour revenir en fait à mon premier amour, qui est la batterie.
D'accord.
Et tu sais, il y a quelque chose que je pense sincèrement, c'est que on est voué à un destin, c'est un grand mot, c'est pas un destin, mais on est voué à des qualités dès l'enfance, je pense, et la mienne, ce n'est pas le chant.
OK.
Voilà, et j'ai réalisé ça en faisant un peu le tour des maisons de disques. Alors c'est vrai que l'album qui va sortir, c'est aussi la musique, et ma musique, elle est un peu particulière. Ça se veut être de la pop, mais pas vraiment. Et les rythmes de batterie sont toujours très très étranges et saccadés. Il y a
Ouais.
aucun rythme qui est droit. C'est toujours un peu broken beat dans l'esprit, mais funky, mais pop, et en même temps un peu électro. C'est très bizarre. Enfin, c'est très bizarre. Je sais pas, mais en tout cas, ça plaît pas forcément. Ça fait pas l'unanimité. Et puis après, ma voix, personne s'en est plaint, mais je suis pas non plus Michael Jackson ou Prince ou Stevie Wonder. Donc forcément, voilà. Et c'est là que je me suis dit, bon, au moins je suis allé jusqu'au bout. Et je vais revenir, et du coup là je retombe en amour avec la batterie, et c'est ce que je disais au début, et c'est maintenant. Et d'ailleurs, je retravaille plein de choses en ce moment que j'avais pas vraiment travaillé. Tu sais, moi avec mon père, j'ai jamais vu les moulins, les paradiddles. Je savais même pas qu'il y avait des paradiddles diddles, et toutes ces, et en ce moment je suis en train d'apprendre ça, je suis en train de retravailler ça, et c'est vraiment, ça m'ouvre d'autres portes. Et c'est vraiment super. Mais moi, avec mon père, j'ai vraiment appris un peu sur le tas et avec les balles. Et lui, il avait pas une grande technique, et j'ai appris un peu comme ça. Et puis du coup, ça s'est toujours, j'ai continué comme ça. Et après, quand je suis allé prendre des cours de batterie, vu que j'avais déjà un certain niveau quand j'avais 10-11 ans, mon père m'a emmené chez un prof qui avait beaucoup plus de technique, et c'était aussi pour m'apprendre vraiment à lire. Et donc là, je suis allé chez un prof à La Baule qui s'appelait Franck Giraudeau, et j'ai passé 2-3 ans avec lui, et j'ai continué d'évoluer comme ça. Et puis après, je suis allé au conservatoire, et là, j'ai étudié avec Hervé Porcher, et avec lui, il m'a donné plein de clés dans plein de musiques différentes, mais on n'a jamais travaillé sur les bases, des bases de technique de caisse claire, en fait. Et j'y reviens maintenant, voilà, en gros.
Ouais, c'est des choses qui sont. Je me rappelle que quand j'ai commencé avec un prof à apprendre tous ces trucs de caisse claire, je devais avoir 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et je me rappelle que je me disais, mais pourquoi on fait ça? Ça me faisait chier et je me disais, mais les moulins, mais pourquoi tu me montres ça? Maintenant je me rends compte, mais c'est génial le moulin, ça te permet d'ouvrir énormément de portes et plus on a de vocabulaire, plus on peut communiquer avec notre instrument, plus on a la possibilité de dire de choses. Mais oui, effectivement, quand on découvre la chose et quand on n'a peut-être pas beaucoup d'expérience au début, on peut se dire à quoi ça sert alors que c'est génial, c'est vraiment génial.
Exactement. Seulement après, c'est vrai que dans la batterie en général, et en condition de jeu, c'est pas facile d'utiliser ces techniques-là, parce que enfin moi je les utilise jamais, et vu que je les connais pas, c'est logique. Mais du coup, aujourd'hui, en les connaissant, je sais pas encore, je peux pas dire encore que je vais pouvoir les utiliser en situation de live. Par contre, je sais que techniquement, ça va pouvoir m'ouvrir à d'autres choses, mais peut-être plus dans des solos, ou peut-être plus dans des, en fait, ça me donne des nouvelles idées pour les solos, etc. Mais après, c'est vrai qu'en groupe, par exemple, si tu veux utiliser ça sur les tomes, t'auras jamais de volume si ça joue fort, parce que le seul moyen d'avoir du volume, c'est de donner un coup. Et comment on appelle ça? C'est comme du freezé, quoi. Si tu fais du freezé, là, tous tes coups, ils vont avoir un volume, quoi. Un vrai volume que tout le monde va pouvoir entendre. Mais si tu commences à rouler ou à faire des paradiddles pour avoir un gros volume avec ça, ça me semble difficile. Mais voilà, enfin, je pense à ça parce que l'autre jour on a fait le premier concert avec Dame & Co, et il y avait notre ami JB Perrodin qui était là et qui m'a dit: oh la vache, qu'est-ce que t'as frisé ce soir. J'ai fait: ouais, mais t'as vu. Il me fait: bah ouais, sinon t'as pas de son. J'ai fait: bah ouais, t'as vu comment ça jouait fort. Il me fait: bah ouais. Et c'est comme si, en fait, on se disait, bah ouais, j'avais pas d'autre solution parce que ça jouait très fort et pour me faire entendre, j'étais obligé d'envoyer du frisé, quoi. Enfin bon, bref, en même temps, je dis ça aujourd'hui et il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, alors peut-être que je vais découvrir qu'avec toutes ces techniques, c'est possible aussi de se faire entendre et de jouer fort. Enfin, ceci dit, jouer fort n'est pas une fin en soi, mais ça dépend du contexte, mais.
C'est sûr. Et alors, ce que j'adore faire, une des possibilités, toute simple, c'est par exemple, avec le moulin, un truc tout bête et qui sonne tout de suite. C'est Mathieu Zirn qui m'avait montré ça, mais pendant un stage de batterie à Schirmeck, de faire la main droite sur le Charleston et la main gauche sur la caisse claire. Donc, ticat, ticat, caca, ticat, ticat, caca. Et de jouer comme ça, et en appliquant un exercice de caisse claire sur la batterie, sur le kit, on a tout de suite quelque chose qui sonne super bien, avec des petites ghost notes là, qui vraiment, une belle dynamique, quelque chose qui sonne bien tout de
Oui,
suite. Il y a cette possibilité. Et
ah, carrément.
au-delà de l'application directe, il y a aussi le fait que d'apprendre des choses comme ça, je pense que pour la créativité, encore une fois, ça développe le vocabulaire, mais aussi ça ouvre des portes. Ça fait penser à des choses. Par exemple, le paradiddle diddle, c'est un truc que j'aurais. Si on te le montre pas, tu le fais pas, quoi. C'est pas un
Ah,
truc
c'est
que
sûr.
t'inventes. C'est pas un truc sur lequel tu tombes. Et quand tu le découvres, c'est des nouvelles opportunités. C'est quelque chose de nouveau et ça peut ouvrir l'esprit, donc permettre d'être plus créatif, je pense aussi, de découvrir ces
Tout à fait.
choses-là.
Tout à
Ok,
fait, ouais.
et alors pour le chant, j'ai vu hier tu as posté sur Facebook une vidéo où tu joues donc à The Voice et où tu fais de la batterie et où tu chantes en même temps. Alors comment
Oui.
est-ce que tu t'es entraîné pour ça? Parce que chanter, faire de la batterie c'est une chose, faire les deux ensemble c'en est une autre. Comment est-ce que tu fais pour faire ça, pour t'entraîner pour ça?
En fait, j'ai toujours fait ça.
Ah.
Depuis tout petit, ça a toujours été. J'ai toujours chanté en jouant. J'ai les mélodies ou les choses comme ça. Des fois, je jouais sur des disques, mais des fois, je jouais juste la chanson en me chantant la mélodie ou un morceau que j'adorais. Je montais enfin, je montais parce que la batterie était là-haut et je jouais ce morceau en me le chantant. C'était assez naturel. Je me souviens pas avoir dû travailler, mais je pense qu'en fait, comme j'ai commencé tellement tellement petit, si petit que il y a peut-être des choses qui sont venues plus naturellement, des choses sur lesquelles j'ai buté, mais que j'ai repris tout de suite, ou j'ai vu où ça allait pas, ou des choses comme ça, et puis que j'ai développé ensuite avec le temps. Parce que sur les premiers albums, après, dont on parlait tout à l'heure, que je faisais dans le groupe, c'était vraiment ragamuffin, et je faisais aussi la batterie. Et là, le débit n'est pas le même, forcément, et c'était encore plus rigolo, d'ailleurs. Mais donc, pour travailler ça, je saurais pas vraiment donner de tactique, mais je pense que c'est comme un boulot d'indépendance, en fait. C'est pendant que tu tiens un rythme, tu en chantes un autre. En gros, c'est ça.
Et je pense de commencer avec des rythmes ultra simples comme un simple poumtchak et avec une petite ligne de chant assez facile et puis peu à peu complexifier la chose, quoi. J'imagine,
Exact,
ouais.
exactement. Bah oui, puis c'est vrai que dans la. Moi, je jouais beaucoup de pop à l'école, enfin à l'école, à l'époque. On n'écoutait pas de jazz forcément à la maison. Un peu Billy Cobham, mon père m'avait fait découvrir ça, mais sinon on n'avait pas de. C'est surtout pour l'orchestre en fait, comme on jouait tous les week-ends, fallait travailler le répertoire, etc. Donc ils étaient assez focus sur les morceaux plutôt pop quoi. Donc que ce soit quand la musique est bonne par exemple, ce qui est assez facile à jouer et à chanter en même temps. Et peut-être que justement j'ai plus commencé par ces choses-là et puis voilà après le développer avec le temps quoi.
D'accord,
Adapté.
j'essayerai ça, j'écouterai la musique après, quand la musique est bonne. Je verrai si alors moi je sais pas du tout chanter, hein, mais j'ai jamais essayé de prendre des cours ou quoi. Et des fois quand je chante dans la voiture des trucs comme ça, à chaque fois ma femme me dit Aurélien, tu fais très bien de la batterie, mais le chant,
S'il te plaît, arrête,
c'est
il fait beau.
facile, s'il te plaît, tais-toi. Donc ouais, mais c'est amusant, c'est amusant. Donc j'essaierai ça quand la musique est bonne. Ça
Bah ouais,
marche.
tu peux. En fait, tu joues que des croches aux mains, donc c'est voilà.
Ouais, donc c'est assez facile de garder ça et de placer dessus. Ok. Et sur la chaîne YouTube de comment ça s'appelle, du Drumming Lab, Ils mettent les masterclass qu'ils font. Alors déjà, pour ceux qui écoutent ce podcast, hein, allez voir la chaîne YouTube du Drumming Lab. Juste génial, il y a plein de masterclass. Et si vous pouvez aller à Paris, bah allez-y, pour de vrai, finalement.
C'est clair. Il y a de la chance qu'on ait cet endroit. Et Fred Rimbert qui fait toujours venir des batteurs incroyables. Il y avait Benny Greb, il y a eu Aaron Spears, il y a eu puis beaucoup de batteurs français aussi. Donc ouais, profitons de cet endroit. Donc si vous pouvez y aller, allez-y.
Ouais, c'est un lieu magique. Et tu disais pendant ta masterclass que souvent on te demandait comment tu faisais pour faire ça, quelle technique tu utilises, etc. Je sais plus ce que tu montrais exactement, quel exercice tu montrais exactement à ce moment-là. Mais en tout cas, tu disais que la réflexion, que se poser ces questions, c'était souvent une barrière et que le manque de confiance nous empêchait finalement de faire les choses pour lesquelles on a déjà peut-être le niveau. Et tu avais apparemment un exemple précis en tête. Tu pensais à quelqu'un qui avait déjà le niveau pour faire quelque chose et qui n'y arrivait pas. Il se fixait des barrières mentales apparemment et parce qu'il se posait trop de questions.
Absolument.
Il pensait trop. Tu peux parler un petit peu de ça ?
Absolument. En fait, tu sais, c'est comme... en fait, je prends toujours l'exemple de marcher. C'est sûr que quand un enfant, il va vouloir marcher et il va tomber. C'est sûr qu'il va tomber. Mais il va essayer, et au bout d'un moment, il va trouver son équilibre. Au bout d'un moment, il va marcher. Et à force de marcher, il va même courir. Mais il n'y a aucun moment où il va se poser la question « Comment on fait pour marcher ?» Il va le faire et c'est tout.
Ouais.
Et c'est ça la démarche, en fait. Parce que s'il commence à se demander comment faire pour marcher et qu'il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas l'équilibre, mais il va continuer de se demander comment faire sans le faire.
Ouais.
Mais à un moment, il faut le faire, simplement. Et si on tombe, c'est pas grave. Et justement, d'où la démarche de se dire... je vais prendre un exemple. Moi, quand j'avais 11 ans, j'ai vu Dennis Chambers et je me suis pas dit « Oh la vache, c'est incroyable, je pourrais jamais. » Non, je me suis dit... Oh, c'est incroyable, j'adore, je vais faire ça, je veux faire ça, je vais jouer comme ça.
Ouais.
Et c'est pas la même démarche. Après, bien sûr, on peut chercher des informations, et c'est important d'en chercher pour s'améliorer. En plus, il y avait pas YouTube avant, maintenant il y a YouTube, donc c'est incroyable de voir tous ces batteurs, et on peut toujours prendre des informations, de la technique de gauche à droite. Il y a tellement de choses aujourd'hui pour pouvoir s'améliorer. Mais faut foncer, en fait. Et parfois se dire, mais attends, comment tu tiens les baguettes? Est-ce que tu les tiens comme ça ou est-ce que tu les tiens comme ça? Mais moi, en fait, j'en sais rien. J'écoute mon corps. Et à un moment qu'on faut friser vite, bah, naturellement, tu changes de position parce que dans l'autre, tu peux pas.
Ouais.
Mais je me pose pas la question, je le fais. Et les enfants, quand ils prennent les baguettes, ils se posent jamais la question de comment les prendre. Est-ce qu'il faut mettre le pouce ici ou pas? Ils les prennent et ils jouent. Et ce qui se passe quand on grandit, c'est qu'on se pose souvent trop de questions qui deviennent des barrières. Alors qu'en fait, quand on fait les choses inconsciemment, entre guillemets, bah ça peut plus nous réussir. En gros, et c'est ce que j'expliquais. Et j'avais un ami, voilà, que j'ai connu quand je prenais tout à l'heure. J'ai cité un professeur qui s'appelait Franck Giraudot, chez lequel mon père m'a emmené pour que j'apprenne un peu plus de technique et que j'apprenne à lire. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un ami batteur et je l'ai revu peut-être 15 ans après et il avait pas changé. Le niveau était le même, en fait.
Ouais.
Et en plus, il avait arrêté ses études de médecine, alors qu'en fait, il avait vraiment, je pense que c'était ça, sa vocation. La vocation dont je parlais tout à l'heure, on a chacun une vocation. Ouais. Et je pense que, et quand il m'a dit, un jour, il m'a dit, au bout de, même un peu plus tard, je crois que ça faisait peut-être, enfin bon, bref. Et il m'a dit, tu sais, je pense que je vais reprendre mes études de médecine. Et là, je lui ai dit, alléluia, bravo. Je lui ai dit, écoute, c'est ce que tu pouvais faire de mieux parce que la batterie, t'es pas doué pour ça. C'est pas ton truc, mec. Tu feras jamais rien. Tu ne pourras jamais travailler. Tu manques de confiance. Donc, t'as pas le tempo. Tu bouges. Donc, c'est insupportable pour tout le monde. Donc, déjà, là, c'est relou. Et comme t'as pas confiance, tes breaks, tu sais pas trop. Ton horloge interne, elle fonctionne mal. T'es pas fait pour ça. Par contre, t'es hyper à l'écoute, t'es hyper intentionné aux gens, t'es très altruiste. Voilà, là, la médecine, bravo, continue, quoi. Et ça l'a vexé quand je lui ai dit ça, mais j'étais sincère. Mais je pouvais pas lui dire avant, il était tellement passionné. Mais Et pourtant, il a essayé, mais c'était un manque de confiance. C'était, il y avait beaucoup de choses et puis voilà. Je pense que c'est aussi une vocation.
Ouais.
Je sais pas si j'ai vraiment, mais enfin pour moi, c'est sûr que c'est ça, quoi.
Si, si, oui, tout à fait, je comprends tout à fait, je partage ton avis. Et à mon avis, ton ami, alors je sais pas il y a combien de temps c'était, mais très probablement, quand il percera dans la médecine, ou en tout cas tout simplement quand il sera heureux et pleinement bon dans ce qu'il fait, il te remerciera très certainement. C'est sûr que c'est vexant hein, de se dire, ton
Oui, c'est
horloge
sûr,
interne,
bah
elle
oui.
fonctionne mal, tes breaks, ils sont pourris et tout. Bah, c'est un peu envie de t'en mettre une sur le coup, mais bon. Mais
Ouais.
après coup, oui, ouais, bah, c'est un service que tu lui rends, je pense, de toute façon.
Bah, en tout cas, oui, il faut toujours dire la vérité aux gens. C'est
Ouais.
important. Bah, il y a des moments aussi pour ça.
Ouais, bien sûr. Bien sûr, et pour cette démarche que tu mets en place, je pense aussi que moi en tout cas, j'ai très souvent tendance à intellectualiser les choses, et j'aime ça, j'aime ce travail intellectuel. Alors c'est cool, c'est un kiff en soi de chercher à intellectualiser les choses, la réflexion et tout ça, mais il faut pas que ça prenne le pas sur l'action. Je me dis toujours que l'action doit être privilégiée. Il doit y avoir plus d'action que de moments où je suis sur YouTube pour voir comment est-ce qu'on fait exactement pour tenir ses baguettes ou je ne sais quoi. Il doit y avoir plus de temps derrière le kit que de temps dans la tête dans les bouquins ou derrière un écran
Exactement.
d'ordi. Ouais.
Bah ouais, parce qu'on joue pas avec un bouquin.
Ouais.
À un moment, quand tu vas jouer avec ton groupe, t'as beau amener ton bouquin, il va pas se passer grand-chose.
Ouais.
Donc forcément, mais ouais, le temps derrière le kit, en fait, c'est important. Moi, il y a une époque, je disais, où j'ai pas beaucoup travaillé la batterie. Alors, c'est pas que c'est faux, mais c'est que quand j'étais petit, j'y ai passé jusqu'à mes 16 ans. Ça a été toute ma vie, la batterie. Et à partir de 16 ans, bah, tu sais, on devient ado, vraiment, puis on commence à sortir ou autre, et j'ai un peu lâché, mais aussi parce que je jouais énormément en groupe. Et du coup, quand je rentrais, enfin, ou quand je voulais jouer la batterie, un jour j'étais à la batterie, et je me suis dit, putain, je m'ennuie là. En fait, j'ai envie de jouer avec des gens. Et en fait, à partir de 16 ans, j'ai toujours joué, et puis, dès que j'ai eu 18 ans, en fait, j'étais intermittent, et, enfin, voilà, j'ai toujours fait ça, mais le fait de jouer en groupe, ça m'a tellement fait progresser. Ça m'a tellement, épanoui, déjà humainement, mais aussi dans mon jeu. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi que c'est des clichés, mais les clichés sont pas forcément péjoratifs. Et ouais, le reggae, c'est un cliché de personnage, comme le rock, comme le punk, qui n'est pas, c'est pas du rock, comme l'électro, comme le jazz, mais ça dépend quel jazz, chaque musique a ses clichés, mais aussi ses sous-dossiers. Et faut pas les confondre. Et en fait, tout ça, ça apporte tellement humainement, mais aussi dans le jeu, puisque dans le rock, on joue pas tout le rock de la même façon. Il y a plusieurs, ensuite, branches, et faut savoir tout jouer bien. Et ça, c'est juste une histoire de culture, mais surtout de jouer, jouer, jouer en groupe. Et j'ai jamais rien refusé. J'ai toujours, parce que je suis un amoureux de la musique avant tout, et j'ai toujours joué tout ce qu'on me proposait. J'y suis allé. Et avec plaisir, parce qu'à chaque fois j'apprenais, puis à chaque fois c'était des manières de penser différentes, des vocabulaires aussi différents. C'est très intéressant d'ailleurs. Et donc socialement c'est intéressant, et musicalement aussi, et c'est ce qui fait la richesse ensuite du jeu, il me semble, et de pouvoir être tout terrain. Et c'est très important, je crois, pour pas être hors sujet des fois, même dans des jams où à chaque fois j'entends des patterns qui n'ont rien à voir avec le morceau qu'on est en train de jouer. Et parce que le gars ne sait pas, peut-être il a pas écouté cette musique ou ce morceau, ou parce que c'est peut-être un funk, mais c'est pas le même funk de Minneapolis que la Nouvelle-Orléans, et on peut pas jouer ça pareil, quoi.
Ouais.
Enfin bon, bref. Et tout ça pour dire que c'était beau ce que je viens de dire, mais j'ai oublié de quoi on parlait avant que je dise ça.
quelle était la question? Je sais plus de quoi on est parti, mais en tout cas, c'était intéressant. J'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire.
Oui, et en fait, c'était pour dire, c'était par rapport à la jury et pour... Bon, bref,
Oui,
enfin...
de privilégier l'action, et tu disais que tu avais à
Oui,
16 ans,
voilà.
t'avais eu comme un tu t'ennuyais, tu as eu l'envie de jouer avec d'autres personnes. Et d'ailleurs,
Voilà.
je suis en train de me dire, j'ai souvent des messages de personnes, de batteurs débutants qui commencent et qui me disent qu'est-ce que je dois travailler pour pouvoir jouer avec un groupe et qui en fait attendent d'avoir un certain niveau pour jouer avec un groupe.
Ah, alors, faut surtout
pas. Ben justement, je me dis, mais le niveau, tu l'as, quel que soit ton niveau, le niveau, tu l'as. Et
Oui.
il n'y a pas à attendre. Appelle le professeur de guitare ou je ne sais quoi de ton village. Il a des débutants aussi qui seraient ravis de commencer et forme ton
Absolument.
groupe et commence. Il y a des forums, il y a EasyZik, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas EasyZik, c'est un forum qui rassemble des musiciens. Et moi, j'ai rejoint, je crois, deux groupes comme ça quand je vivais à Strasbourg. Et c'est enfin super facilement quoi. Groupes qui souvent ont déjà des compos, ont déjà des trucs et qui cherchent des batteurs. Et en plus, la batterie, contrairement à la guitare par exemple, des guitaristes, il y en a quand même à l'appel. Et
Ah oui.
des batteurs, il y en a beaucoup moins. Donc ça c'est un avantage qu'on a. C'est peut-être plus facile. Je sais pas si c'est vrai ce que je dis, mais je suppose que c'est plus facile en tant que batteur de trouver un groupe qu'en tant que guitariste de trouver un groupe.
Bah, ça doit pas être faux. Je sais pas si c'est vrai non plus, mais c'est très proche de la réalité à mon avis. Mais
Yes.
c'est vrai qu'il faut y aller parce que il y a même qu'en se trompant en fait qu'on apprend. Il faut pas avoir peur de se tromper et puis une fois que l'erreur est faite, on se dit ah d'accord. Mais faut pas attendre d'être parfait avant de pouvoir. Ça en revient à l'exemple du môme qui tombe et jusqu'à un moment où il trouve l'équilibre et qui se met à marcher.
Ouais. Exactement. J'aime beaucoup cet exemple. C'est quelque chose que j'utilise souvent d'ailleurs avec les personnes qui parlent qui ont peur de l'échec, cette peur de l'échec, que ce soit dans le monde du business ou dans le monde de la musique. Cette peur de l'échec, elle nous envahit tous, on la vit tous. Cette peur de l'échec, c'est plus on échoue, plus on se rapproche de la victoire. Tout
Bien
comme
sûr.
un gamin, plus il tombe, plus il est proche de réussir à marcher. Plus il y a
Bien
d'échecs, plus
sûr.
on est proche de ce moment où finalement on peut marcher puis courir. Donc c'est
Mais c'est
l'échec n'est
exactement
pas
ça.
et c'est pas une fin en soi. On voit
Ah
souvent la
non.
chose comme un résultat binaire, je réussis ou j'échoue. Et en fait, je pense qu'il faut le voir comme une étape du processus. L'échec, c'est juste la première étape et après il y a la réussite. Alors il y en a qui réussissent tout de suite et il y a toujours des success stories avec et peut-être avec des émissions comme The Voice ou des trucs comme ça, avec des personnes qui sont inconnues un jour et le lendemain, boum, elles sont partout dans les magazines et compagnie. Bon, il y a des success stories comme ça, j'imagine, mais l'échec, ça fait partie de la réussite. C'est juste une
Bien
étape
sûr,
à
tous
accepter.
les grands businessmen ont commencé par des échecs. Tous les grands investisseurs, ils ont des fois perdu gros, mais c'est comme ça, c'est comme ça. On apprend, on se relève et on trace et on s'améliore. Et ouais, moi je crois que c'est important de pas avoir peur de ça. Ouais.
C'est fondamental et même plus que ne pas en avoir peur, je pense qu'on peut dire que c'est bien de les fêter. Moi, c'est un truc que je m'amuse à faire
C'est vrai?
qui est ouais de les fêter. Par exemple, quand sur mon blog, j'ai eu mes premiers commentaires négatifs ou mes premiers messages de mecs qui me disent oh, mais c'est vraiment tout pourri ce que tu fais voilà et de me dire alors c'est ça pince le cœur hein, quand on le lit on est là et on se dit ah mais est-ce que c'est vrai
Ah, c'est sûr que ça touche.
est-ce que je devrais arrêter on le prend personnellement au début et ensuite il faut le fêter il faut se dire mais si je plaisais à tout le monde je plairais à personne finalement je serais insipide, j'aurais pas de goût, ce serait quelque chose de. Non, il y a ce but de polariser, quoi. J'aime cette. Ouais, ok, alors on part un
Absolument.
petit peu là. Et, et
Ouais.
du coup, tu as énormément de projets différents, tu fais énormément de choses avec les différents groupes, les tournées, on va y venir sur une application aussi, Is Your Teacher, que tu as créée.
Oui.
Toi, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te pousse à faire tous ces projets différents, à continuer à aller de l'avant? Est-ce que tu as une motivation qui est clairement définie? T'en es conscient?
Sincèrement, non. Je pense que je suis juste. En fait, j'aime. En fait, je sais pas. C'est comme moi, j'ai. C'est une phrase que j'ai écrite dans le DVD de Damenko qui va sortir là. Mais si à certains Dieu a donné la foi, à moi c'est la musique en fait. Et à partir de ça. Je n'aurais pas expliqué, mais c'est la musique qui guide tout ce que je fais. Tu sais, par exemple, cette application, je l'ai faite parce que il me semble important d'avoir une application qui en vaille la peine sur les applications. C'est le futur. Il me semble que bientôt tout ce qui est papier, bouquin, ça n'existera plus. Peut-être je me trompe, je sais pas, mais et en fait, l'idée, c'était de pouvoir justement apprendre aux gens à jouer au groupe, en groupe. Et en même temps, il y a tellement de fonctions dans cette application qu'on n'a pas encore développé parce qu'on est au début, mais qui sont prévues déjà. Mais après, c'est un problème d'argent, etc. Mais justement, le but de ça, c'est de pouvoir faire apprendre la musique aux gens depuis les débutants jusqu'à un certain niveau. Et c'est juste parce que, en fait, je trouvais qu'il y avait rien de vraiment sympa pour apprendre, qui soit assez ludique et qui me donne envie, en tout cas à moi. Donc je fais toujours les choses en rapport à forcément ce que je pense, mais par rapport à la musique et les projets, c'est pareil. Je fais juste, c'est toujours par amour de la musique que je fais ça, et puis peut-être aussi par ambition, oui, oui, bien sûr, certainement en fait. Et puis bah ouais, je saurais pas quoi, tout
D'accord.
simplement, je crois.
Ouais, on dirait que c'est comme comme le processus de développement technique, comme tu disais, d'y aller simplement et de pas se poser la question comment je tiens mes baguettes, où je mets mon pouce. Tu le fais simplement. Il y a quelque chose qui te pousse et tu le fais simplement.
En fait, exactement. Après, j'ai eu beaucoup de projets que personne n'entendra jamais, de choses qui ne sortiront jamais, tu vois, c'est comme ça, et c'est pas grave, j'ai appris, et puis bah à chaque fois je fais des nouveaux projets et j'essaye de pas refaire les mêmes erreurs, et puis voilà. Après, tu sais, par exemple, j'ai produit des fois des artistes dont les albums sont pas sortis, parce que alors aujourd'hui la chance qu'on a, c'est de pouvoir sortir sa musique sans passer par des maisons de disques. Donc je pense que c'est des choses qui vont sortir, mais à l'époque c'était comme tant pis, on le met à la poubelle, voilà, personne en veut, c'était un échec. Mais finalement, en produisant ces albums-là, j'ai énormément appris, et puis c'est ce qu'a donné aujourd'hui la production de Damenco, qui est plutôt bien réussie, en fait. Et ces albums-là vont quand même sortir, même si à l'époque c'était un échec, bah aujourd'hui, grâce à Internet, on va quand même les sortir.
Bah ouais.
Mais tout ça, c'est toujours la musique. Tu sais, par exemple, Michel Mayet est là, qui est un chanteur congolais.
Ouais.
Je l'ai rencontré à Paris quand je suis arrivé en 2001. Et je suis complètement tombé amoureux de ces chansons. Vraiment, c'est beau, quoi. Je trouve que les mélodies sont super. Je trouve que les harmonies, je trouve tout est bien. Et en fait, on a essayé avec le groupe. Alors au départ, t'as toujours, ouais, les gars, ça va marcher. Puis petit à petit, ça s'est essoufflé. Puis ça a rien fait, tout ça. Et puis en 2009, je me suis dit, ok, il faut faire quelque. Je l'ai re-rencontré, je ne sais plus comment, et je me suis dit, il faut faire quelque chose pour lui. J'adore sa musique, et je me suis dit, ok, je vais produire son album. Et c'est un très bel album, mais je l'ai fait parce que j'aime sa musique, parce que c'était, fallait que ça existe pour moi, tu sais, je sais pas comment. Et aujourd'hui, bah, on peut l'écouter sur Deezer, on peut l'écouter un peu partout sur toutes les plateformes musicales, mais c'était juste par amour de la musique, même si bien sûr dans le fond t'as une ambition de peut-être pouvoir vendre ce disque et de faire tourner le groupe mais c'est qu'un second temps en fait.
Ouais.
La base même c'est qu'au moins la musique existe, et puis à partir de là, donc c'est toujours ça en fait qui m'anime, comme quand je fais mon album ou comme quand je fais, je sais pas, puis j'ai un trop-plein dans la tête, faut que ça sorte aussi.
c'est ce que tu dis là, c'est marrant. Ça m'étonne pas du tout. Il suffit d'écouter ton album Make Some Noise, et je me suis écouté hier et je me suis dit waouh, mais il y a tout ça, ça part dans tous les sens, tellement de styles, et à un moment il y a un peu de banjo, il y a un peu de, je sais pas, mais c'est pas possible.
C'est la rencontre d'Ennio Morricone et de Skrillex.
Ouais, et c'était génial, et il y a quelque chose ouais, d'extrêmement riche et de presque épileptique, j'ai envie de dire. Il y a tellement de choses. J'imagine que c'est le genre d'album qu'on réécoute, et à chaque fois on doit retrouver des petits machins, des petits breaks, des petits trucs qu'on n'a pas entendu la première fois.
Ouais. Ouais, peut-être. C'est vrai que ouais, cet album-là, c'était. Enfin, c'est pareil. J'ai eu envie de faire un projet électro où j'allais jouer vraiment plus de jungle et tout ça, parce que j'adore ça aussi. Puis voilà, je l'ai fait, c'est tout.
Ouais, c'est un kiff, et voilà, ouais. Tu l'as présenté dans... Ok.
Exactement.
Et alors, juste avant, tu nous parlais de Is Your Teacher, donc la, oui. L'application que tu as lancé. J'ai vu qu'il y avait, alors j'ai jamais utilisé l'application, mais j'étais sur le site. J'ai vu qu'il y avait des cours qui ont été faits par Thomas Lang, par Virgile Donati, Jean-Philippe Fanfan, pour citer que les batteurs, parce qu'il me semble qu'il y a aussi des bassistes, et par toi aussi, hein,
il y a aussi des cours. Il y a Alain Caron, Dominique Di Piazza, il y a aussi un pianiste, John Ronnie, il y a un guitariste aussi. Et puis bah ça va se développer petit à petit. Moi j'ai parlé avec beaucoup de monde dont je tairai les noms au cas où ils n'y participent pas, j'aurais moins l'air ridicule. Et mais il y a beaucoup de gens intéressés et puis il y a aussi Dédé Ceccarelli, il y a moi aussi où je donne justement il y a quasi tout l'album d'Electro Schmidt où j'explique toutes les patterns, les jungles, etc., les chops, les plans. Dédé, j'adore, il explique les ballets. Et puis Jean-Philippe Fanfan, il a tout un côté Caraïbe, il a fait aussi des cours pour débutants. Enfin, c'est génial. Et en fait, ce qui est génial dans cette application, c'est que c'est toi qui choisis ton angle de caméra.
Ok.
Donc en fait, tu peux voir que les pieds, tu peux voir que les mains. Tu peux voir que le top, si tu veux,
ou
t'as une caméra de front, quoi, de façade,
ouais.
de face, et donc c'est toi qui choisis les angles que tu as envie de regarder pendant un morceau qui est joué en live tout du long, donc qui n'est pas coupé. Et ensuite sur cette timeline en bas qui va de 0 à peu importe le minutage de la chanson, tu as des numéros qui correspondent en fait aux leçons, et ces leçons là sont les explications et le décryptage de ce qui est joué pendant le live, en fait.
Ouais.
Et ça, c'est l'artiste qui décide d'expliquer ce qu'il veut expliquer sur sa façon de jouer, sur le pattern, sur pourquoi. Et ce qui est superbe, en fait, ce que je trouve par rapport à beaucoup d'autres applications, c'est qu'on parle de musique. Par exemple, à un moment, j'explique, et Dédé aussi, il a expliqué la même chose, et j'ai trouvé ça super qu'on ait la même approche. C'est que, à un moment, c'est le solo de basse. Donc, pendant le solo de basse, lui, il fait des ballets pas fort, il essaye de tenir le tempo, mais sans remplir, il joue vraiment piano, il y a une histoire de nuance, il y a une histoire d'accompagnement. Et ça, on n'en parle pas souvent, en fait, dans les méthodes de batterie. Souvent, c'est que technique, la batterie pour la batterie. Et moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment aussi apprendre la musique. Parce que c'est la musique, en fait, c'est le langage, c'est ça. Après, la technique, elle permet justement de pouvoir dialoguer différemment, mais avant tout, c'est qu'on puisse jouer ensemble.
Ouais.
Et pas tout seul. Et donc, c'est ça l'application. Et alors, ce qui est d'autant plus génial, c'est que dans ces explications-là, que Dédé fait, par exemple, ou Thomas Lang, ou peu importe, c'est qu'il y a plusieurs tempos. Donc, c'est comme un time stretch, en fait. Sauf que le son reste le même, et pendant ce time stretch là, il y a la partition qui va avec, donc on peut facilement voir ce qui se passe du coup. Et il y a aussi un métronome, et il y a aussi on peut toujours choisir ses angles de caméra. Donc je pense à Virgil Donati ou à Thomas Lang qui font beaucoup de double pédales. C'est très facile de les mettre à un tempo très lent et de vraiment comprendre en regardant que la caméra des pieds ce qui se passe.
Ouais.
Parce que le problème que j'avais moi avec certains DVD, c'est que des fois il se passe des trucs aux mains ou aux pieds, tu peux pas les voir. Le réalisateur, il fait n'importe quoi. Il filme les cheveux, t'as envie de lui dire mais qu'est-ce que tu fais ? Ça se passe dans les pieds là. Tu sais, donc voilà. Et je suis très très content de cette application et il y a des super. Enfin, tu verras si t'as l'occasion. Alors, ce qui est très chouette, c'est que tu peux tester les démos. Où il y a un ou deux exercices en général, et ça te permet de voir un peu ce qu'ont fait les différents profs du coup, puisqu'il y a une démo, il me semble, pour chaque cours.
Ouais.
Donc voilà, il y a une démo gratos que vous pouvez tous essayer. Et ce qui est génial, par exemple, pour si je prends Alain Caron, et c'est ce qu'on va développer de plus en plus sur cette application. C'est que dans Alain Caron, si on prend un cours qui s'appelle par exemple Enhance, qui est un morceau tiré de son album Septentrion, donc on joue ce morceau en live avec le groupe d'Alain. Si vous avez un pote bassiste qui joue avec vous, lui il va acheter les cours d'Alain, mais vous, si vous êtes guitariste, pianiste ou batteur, vous pouvez acheter les cours d'un des trois autres, ce qui fait qu'en fait, à la fin, si on est aussi un quartet, on peut tous apprendre le morceau en ayant les conseils de chacun des musiciens qui ont joué.
C'est bon, ça.
Ce qui fait qu'en fait, musicalement, on peut s'y retrouver, puisque chacun prend les conseils des musiciens. Ça permet de jouer le morceau et de comprendre surtout ce qui se passe pour et le batteur ou le bassiste, comment il a créé le morceau, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, quelle est la pattern. Et Alain, c'est incroyable ce qu'il explique, sa technique de slap et tout. Enfin, c'est génial.
Ouais, c'est un bon pédagogue aussi.
Oui, beaucoup meilleur que moi. Tellement meilleur que moi. Et Dominique Di Piazza aussi, il a une technique particulière, puis harmoniquement. Enfin, c'est vraiment superbe. Alors, c'est sûr que ces cours-là sont pas forcément abordables pour des débutants. En revanche, il va y avoir aussi beaucoup de cours débutants. Et Jean-Philippe Fanfan a fait d'ailleurs des cours de débutants vraiment géniaux. Et Thomas Ling aussi, il a fait quelque chose d'incroyable. Il a comme résumé son premier DVD,
ouais,
sur l'application. Et c'est vraiment génial les exercices qu'il donne. Et pareil, il y a plusieurs tempos, on joue avec lui. Enfin, c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment bien.
Super. Et du coup, il y a plein de chansons, de morceaux qui sont joués et qui après sont disséqués. Donc, on peut vraiment voir chaque partie, chaque angle, etc. Et il y a aussi des leçons plus... plus technique, par exemple le Muller ou les paradiddles, comment, des trucs plus techniques.
En fait, non, pas pour le moment, parce que justement, j'en reviens à ce que je pense, mais peut-être je me trompe, mais il me semble que c'est pas des choses qu'on utilise dans la musique quand on joue simplement la musique. Ça dépend après à certains niveaux, mais dans les si on prend des, je sais pas. Mais si on prend tous les groupes pop ou rock, avant d'utiliser le Moller ou toutes ces techniques-là, ou des paradiddles comme on parlait tout à l'heure, il me semble que ça s'utilise seulement à partir d'un certain niveau de complexité. Et il y a plein de titres ou plein de musiques qu'on peut jouer sans. Alors après, en fait, le Moller, en fait, je dis ça et peut-être je dis une bêtise, mais pour moi, le Moller, le jour où j'ai appris ça, je me suis demandé pourquoi on donne un nom à ça. Parce que moi je le faisais, c'est tellement naturel. Il y a une seule manière de pouvoir jouer, de pouvoir faire ça, en fait, de pouvoir faire tac tac tac, tic, enfin, ou tic 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 tic, 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 ouais, sur le charlet, ouais. Par exemple, qui finalement c'est le Moller, c'est cette technique de frapper un coup et quand on remonte la baguette, elle tape le charlet sans qu'on donne ce coup-là, en fait, c'est ça le.
Ouais. Et du c'est coup, ça, le truc. Plus silencieux, ça fait comme une note piano, comme ça.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en même temps, c'est tellement naturel. C'est le mouvement physique naturel. Et j'ai jamais compris pourquoi on donnait un nom à ça. En fait, c'est bizarre parce que, mais peut-être parce que j'ai commencé petit aussi. Alors, c'est pour ça que je comprends qu'on lui donne un nom. Mais en même temps, à partir d'une certaine vitesse, on est obligé d'utiliser ça. Sinon, c'est impossible. On peut pas faire c'est impossible. Enfin bon, bref. Et donc, il n'y a pas encore de cours techniques à proprement parler. Ben, sauf les cours de Thomas et les cours débutants, en fait. Parce qu'il a quand même parlé de ça, Jean-Philippe Fanfan, dans ses cours débutants. Mais c'est toujours propre à la musique. Par exemple, dans les cours débutants de Jean-Philippe Fanfan, il commence par jouer. Alors, il y a un blues, il me semble, un rock. Mais c'est vraiment débutant, c'est très simple de jouer ces morceaux-là. Mais justement, après, tout ce qu'il apprend, c'est encore disséqué. Et dans chaque exercice, il explique comment jouer la chose, mais en même temps, il donne de la technique pour pouvoir jouer la chose.
Ouais.
Mais c'est pas des cours de technique à proprement parler. En fait, c'est ce que je voulais pas dans l'application. Je voulais toujours que la technique soit en rapport avec la musique.
Qu'elle soit directement appliquée dans un contexte musical, ça rejoint ce qu'on disait avant avec les débutants qui attendent d'avoir une certaine technique pour jouer avec un groupe. Non, l'idée c'est tout de suite commencer. C'est comme si je vois ça comme s'il y avait une première étape qui est la batterie et une deuxième étape qui est la musique, qui est le groupe, qui est quelque chose qui est supérieur. Quand on joue en groupe, il y a quelque chose qui ne se passe pas quand on joue tout seul. Il y a comme quelque chose de supérieur. Et c'est cool que tu vises ça, que tu vises ce côté-là, ce côté qu'on ne trouve pas dans les méthodes, effectivement.
Oui, c'est ça. Bah, c'est aussi, en fait, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est toujours la musique. Moi, ça reste ma vision. Après, c'est très personnel, hein, mais bon. En tout cas, je pense que c'est pas mal. Mais je crois même que, en fait, pour tout te dire, je crois même que je suis plutôt dans le vrai, parce que tous les gens que j'ai côtoyés, ils ont tous cette chose en commun qui est la musique, l'amour pour la musique. Et il y a un moment, on parle plus de technique, on joue simplement. Et c'est cette chose en commun que j'ai trouvé un peu chez tous les gens avec qui j'ai pu jouer, en tout cas.
C'est intéressant ce que tu dis là. Je me retrouve. Moi, c'est des discussions qui suis très loin de ton niveau technique et musical. C'est quelque chose que je me retrouve souvent à avoir des discussions techniques avec d'autres batteurs. Tiens, comment tu fais pour faire ça? Comment tu tiens ta baguette? Des trucs comme ça. Moi, c'est quelque chose. Je suis toujours à cette étape, quoi. Donc ça me parle tout à fait ce que tu dis là. Et du coup, dans cette sphère, si on peut dire ça comme ça, cette sphère des musiciens professionnels, c'est quelque chose qui se fait beaucoup moins, ouais, de parler de technique. C'est beaucoup plus axé sur la musicalité.
En fait, tu sais quoi? On parle de tout sauf de musique.
Ok.
Clairement. Parce qu'en fait, la musique, on la vit, c'est notre truc. C'est comme si je te demandais, comment tu fais pour me parler?
Ouais, d'accord. Ouais.
Mais c'est quoi ce vocabulaire que tu utilises? Ben, en fait, on utilise le même. Après, peut-être t'as des degrés différents parce que moi, j'ai dû lire 3 bouquins dans ma vie. en tout cas, pour se comprendre, on utilise le même. Et la chance qu'on a dans la musique, c'est que c'est un langage universel. Et donc, du coup, on parle tous le même. Après, je comprends qu'il y a des questions techniques. Et bien sûr, avec les autres musiciens, comme on a des instruments différents, on n'en parle pas forcément. On va plus parler de musique, comme tu dis, et du coup, pas de technique. Et dans la musique, on va plus tout de suite se comprendre et tout de suite se donner des directives ou comment je peux dire? Si c'est pas des directives précises, ça va être plutôt des intentions de jeu.
Ouais.
Ou un ressenti ou des émotions et on va plus parler de la musique comme ça. Et donc quand il y a par exemple pour Catacombe qu'on répète avec Damenko, je leur dis là les gars, faites-moi peur. Je veux que vous me fassiez peur. C'est dans cet esprit-là qu'on va jouer le morceau. Mais ça donne tout de suite un état d'esprit auquel on va tous se rattacher pour qu'on joue cette musique et que du coup on expose ou on libère, on donne cette émotion aux auditeurs. Et c'est plus de ça qu'on va parler quand on répète, mais quand on répète pas, bah oui, on peut parler de musique, on va parler des gens qu'on aime bien, de ci, de ça. On partage des choses, mais comme des potes en tout genre, mais et on déconne surtout.
Oui, bah oui. Et je me disais, hier, j'ai interviewé Stéphane Chamberlain. Je ne sais pas si tu l'as déjà rencontré.
Si, bien sûr, oui.
Ouais, il est génial. Il a une patate, une énergie. C'est un vrai Québécois. Génial. Et je lui partageais, je lui disais, avec Benny Greb, c'est sur sa vidéo de Romeo. Je mettrai le lien d'ailleurs pour ceux qui écoutent ce podcast. Je mettrai le lien de la vidéo Dromio de Benny Greb, juste génial, enfin fantastique. Et il explique donc lui son gros truc c'est le groove, hein, le travail du groove. Et il explique les différentes choses qui permettent de groover. Et il me semble qu'il y a 5 points qui cite 5 points différents. Et il y en a un qui est l'état d'esprit, qui est les pensées du moment, les pensées pendant que l'on joue quelque chose.
Exactement.
Du coup, je pense que ça rejoint beaucoup ce que tu dis avec là, les gars, faites-moi peur, faites quelque chose qui fout les ch'touilles, qui voilà. Et ça met dans un état d'esprit. Et du coup, on va gratter les cordes différemment. On va être dans une intention différente. On va peut-être être un petit peu plus au fond du temps, etc. Ça se ressent sur l'instrument. Et c'est pas quelque chose de technique, quoi. C'est quelque chose d'humain. C'est quelque chose. Ouais.
Exactement. Et ça, c'est important. Et c'est très rigolo, par exemple, des fois Benny Greb, justement, quand il parle du groove, et tu peux voir, des fois, quand ça perd le tempo, ou c'est qu'il y a un doute. Il y a un doute qui se met dans la tête.
Ah ouais. Je vois. Ouais.
Et là, c'est paumé. On t'a perdu. Là, t'as envie de dire, suis mon doigt. Voilà. Non, on est en train de paumer, les gars. Mais tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est important, l'état d'esprit.
Ouais.
Mais ça change. Mais après, justement, quand on répète, je peux leur dire ça. Et en même temps, je vais lui dire, non, non, attends, la deuxième croche, elle est, c'est pas ça, en fait. C'est pas une croche. Et on va pouvoir peut-être commencer à parler plus technique. Ou alors là, non, l'arrêt, les gars, faut qu'il soit net. Je veux pas de son qui traîne. Je veux que là, ce soit vraiment un arrêt net. Et ensuite, c'est vraiment une pause. C'est vraiment, après, il y a des directives, effectivement. Ou là, dans ton solo, j'aimerais que tu fasses ci ou ça. Tu les diriges un peu, quoi.
Ouais.
Mais sinon, voilà, qu'on parle de, parle plus d'intention, de choses comme ça.
D'accord. Et alors, ce projet d'Amenco, comment il s'est créé? Les autres musiciens, je les connais pas, mais ils sont juste énormes. Ça, comme je te disais, Catacombes. Je mettrai le lien aussi de celle-là. Alors, il y en a plusieurs sur la chaîne YouTube. Mais moi, c'est Catacombes qui m'a vraiment, qui m'a marqué. Elle est énorme, Catacombes. Elle dure une dizaine de minutes, il me semble. Et
oui, c'est ça.
Il se passe énormément de choses. Et notamment, il y a des moments très, très métal, dans une énergie très, très métal et tous ensemble un peu à la, je sais pas si alors certains considèrent ça comme un mouvement musical, d'autres non, la djent. Tu vois ce que c'est la djent?
Ah non, pas du tout.
D'accord. Bon, c'est un truc très métal où les cordes sont étouffées aux grattes et on a des, vraiment tous ensemble, la grosse caisse qui suit les grattes, qui suit la basse, tous ensemble, des trucs très carrés et,
ah oui, d'accord.
Et il y a, il y a des passages comme ça assez lents, des tout. Des trucs vraiment tous ensemble avec des grosses pêches qui marchent super bien. Il y a ça dans Catacombes. Moi, j'adorais ça. Mais du coup, Damenco, qu'est-ce que c'est?
Alors, en fait, c'est le. Tu sais, c'est un peu comme l'alchimiste, c'est avoir parcouru la terre entière pour se rendre compte, en fait, que la musique que je voulais jouer, je pouvais la faire qu'à Paris.
Ah ouais?
Bah, parce que tu sais, aux États-Unis, c'est beaucoup. C'est beaucoup de, il y a de très bons musiciens, etc. Mais l'éclectisme, c'est très dur à trouver. Les gens qui font du métal, ils peuvent jouer d'autres styles, mais ils vont mal le faire. Tu vois, c'est très catégorifié comme ça. Et les gens, moi j'étais à Los Angeles, et là-bas, les jams, c'était très R&B et tout, et j'adore, hein. Moi, j'aime beaucoup ça, puis gospel et tout ça, donc beaucoup de chops et de groove, etc. Mais ça me manquait, les jams un peu à Paris, les 6-8, la musique africaine et tout ça, ça me manquait. Et en même temps, j'adore aussi le rock. Et en fait, comme je te disais, je suis vraiment un amoureux de la musique. Et j'avais besoin d'un groupe où on peut tout jouer. Et en fait, tu verras, c'est ça les autres morceaux. Il y a des trucs un peu funky. Et après, t'as un truc, c'est un peu... Makossa, enfin pas Makossa, mais comment on dit, pas Maloya, mais ça me reviendra. J'ai plus, mais et j'avais besoin de pouvoir, qu'on puisse jouer n'importe quoi, que ce soit éclectique dans la musique vraiment. Et en fait, ça me paraissait dur de faire ça aux États-Unis, ça aurait sonné très américain, donc très léché, très très beau, mais ça manquait de, il y a un côté aussi qu'on a aussi en France qui est un peu crado qu'on joue, tu sais, je saurais pas l'expliquer, mais autant là-bas, je vais faire une métaphore un peu naze, mais quand il pète, ça sent le dentifrice, autant chez nous, ça sentirait plutôt le pinard et tu vois ce que je veux dire, c'est exagéré, mais on a un côté genre, on n'est pas des bons petits soldats, nous les Français.
Ouais.
Tu vois,
on d'ailleurs, on fait la révolution.
Bah voilà, et puis d'ailleurs on fait nuit debout en ce moment et tout le monde s'y mêle et les routiers, on n'est pas des bons petits soldats. Les Américains, c'est des bons petits soldats.
Ouais.
C'est pas péjoratif, hein, c'est des images. Hein. C'est pour voilà. Donc en fait, par exemple, moi j'adore Snarky Puppy. J'aime vraiment ce groupe.
Snarky Puppy,
Snarky Puppy, c'est un groupe ils ont déjà gagné 2 Grammy là, et c'est un groupe justement qui font de la musique instrumentale. Et alors pas que, parce que à côté ils ont fait un autre projet qui s'appelle Family Dinner, mais toujours au sein de Snarky Puppy, mais c'est Family Dinner. Et Family Dinner, c'est, il y a beaucoup de chanteurs, beaucoup d'autres artistes invités en dehors du groupe. Et Snarky Puppy, c'est un groupe instrumental qui mélange justement un peu tout, un peu comme on fait avec Damenco.
Ouais.
Et je trouve ça vraiment très bien parce que c'est très bien écrit, c'est très bien arrangé. Michael League, en plus, c'est un truc, c'est ce qu'il a fait. Enfin, c'est vraiment, il est hyper sympa et sa musique est vraiment géniale. Il y a vraiment plein d'influences différentes. Mais pour comparer enfin on fait pas la même musique parce que Damenko c'est un peu plus on est plus un peu rough, un peu tough, mais justement un peu plus crado en fait dans dans l'exécution. En fait, on est français.
Et ils sont tous français, les autres musiciens?
Ah non, non, c'est des Américains. Il y a un mélange de New-Yorkais et de Texans. Beaucoup de gens de Dallas et de Brooklyn, je crois.
Et ils vivent à Paris maintenant?
Non, non, pas du tout. Ils sont toujours aux États-Unis. Mais en fait, ils ont créé pour moi un nouveau format qui est un format visuel. Et en fait, ils ont eu l'idée de filmer leurs séances de studio, mais qui sont live, donc avec du public.
Ouais.
Et c'est exactement ce qu'on a fait avec Damenko. Et alors pourquoi? Bah déjà parce que pour moi c'est un nouveau format incontournable aujourd'hui pour nous qui faisons de la musique instrumentale, parce que les gens en général aujourd'hui on a tous la tête dans le téléphone et la musique on ne l'écoute plus, on la regarde. D'autant plus si elle est instrumentale. Et donc, je me suis dit que pour faire ce groupe et faire cette musique, il était important qu'on suive ce format, qu'on exploite ce format qui, bah, comme je l'ai dit avant, est incontournable aujourd'hui pour moi, quoi.
Ouais, moi j'ai adoré ça. Quand j'ai vu je sais plus comment je suis tombé sur cette vidéo. C'était bien avant qu'on prévoie l'interview. J'avais déjà vu cette vidéo de Catacombs. Et quand je l'ai vue, je me suis dit waouh, mais c'est quoi ce truc avec ce public qui est. Alors ce public, c'est des personnes. Il doit y avoir, je sais pas, peut-être une vingtaine de personnes dans une grande salle avec tous les instruments. Et qui sont assis sur des sièges, qui regardent un petit peu. C'est pas genre le public d'un côté, les musiciens de l'autre. Le public est au milieu. Les musiciens sont avec le public. C'est vraiment mélangé comme ça. Et ils ont des casques. Donc j'imagine que tout est, y a un ingé son et tout est retransmis dans les casques alors, avec un son nickel.
Exactement. En fait, il y a deux mix. On a un renvoi pour nous. Et nous, on se fait nos propres mix avec des aviums. Ça veut dire qu'on a les pistes séparées et c'est nous qui nous faisons nos propres mix. Et il y avait un mix dans les casques qui était mixé plus ou moins comme l'album, quoi.
Ouais.
Et donc, les gens écoutaient vraiment le tout comme si c'était l'album. Vraiment, ils avaient un mix particulier. Et l'ingé son, Henri... Enfin, c'était un peu aussi une expérience et un challenge, quoi, pour lui qui avait jamais fait ça. Et parce qu'il y avait beaucoup de pistes entre la batterie, les percussions, les claviers, c'était du lourd.
Ah ouais.
Et ça s'est hyper bien passé et puis ben voilà, quoi. Ouais, donc les gens avec un mix dans leur casque, ouais.
Ok. Et alors, est-ce que vous allez faire des concerts?
Tout à fait. En fait, on en a déjà fait un qui s'est très bien déroulé au Sunset, et on était très surpris parce que en fait, c'était booké avant le concert et seulement sur réservation. Et comme on n'a pas encore ni sorti l'album ni rien du tout, on était les premiers sortis et il y a eu beaucoup de gens qui sont vus refuser l'entrée le soir même. Donc c'était c'était super et le concert était vraiment génial. Et ce que j'ai adoré par-dessus tout, ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est que le public était très très réactif, ce qui n'est pas le cas d'un public français en général. Le public français est un public assez froid et qui réagit, mais pas facile. Il est pas facile à se mettre dans la poche. D'accord. Alors que le public américain, à la moindre chose qui se passe, il réagit. Il a une toute autre approche et une toute autre expression de ses émotions, quoi. Alors qu'ici, on garde assez les choses pour nous. Et là, justement, le public réagissait tellement, c'était complètement hallucinant, quoi. Ils étaient très attentifs, très à l'écoute. C'était tellement plaisant de jouer devant un public. Enfin, c'est un public comme ça et. Enfin, c'était génial. Franchement, c'était une expérience de fou. Et donc, le DVD va sortir le 11 octobre. Et c'est un CD-DVD. Donc, il y a les deux dans la même pochette. Et ça va sortir le 11 octobre au Zèbre. On va faire le concert à Paris. Et puis voilà, mais je pense qu'on mettra les places en vente, je ne sais quand, mais voilà. Et pour le moment, alors il y a quelques concerts, mais ça reste assez anecdotique, on va dire. Il y a pas de voilà, on privilégie vraiment la sortie de l'album le 11 octobre. Et on joue quand même le 25 juin, on fait la première partie de Victor Wooten à Compiègne.
Oh là, ok, ouais.
Et voilà. Et sinon, pas trop de concerts. En fait, on se réserve. Par contre, je pense que l'année prochaine, on va jouer énormément, oui.
D'accord. Et du coup, oui, là, ils vont tous venir à Paris pour la sortie de l'album. Vous allez vous rencontrer.
Souhaitons.
Souhaitons. Ce sera embêtant, sinon, je pense. Et
Ouais.
après, il y a ouais une tournée de prévu ou quelque chose.
Alors pour le moment, non, justement, on est en train de démarcher en ce moment. Alors il y aura une tournée, oui, mais justement, elle est en train de se monter. J'ai dit beaucoup de justement dans cette phrase. Il faut que justement, c'est un petit peu trop, justement. Donc voilà, on est en train de monter la tournée en ce moment même. Donc ce sera pour l'année prochaine, je pense, à partir de janvier, février, et puis peut-être quelques concerts après le Zèbre, mais pour l'instant rien de fixé, de prévu quoi.
Ouais. Et je pense que c'est excellent que vous fassiez une sortie vidéo aussi, parce que c'est quelque chose qui, en tant que musicien, est super plaisant et on entend plein de petits trucs où on se dit, ça vient d'où, c'est quoi? Surtout qu'aussi, il y a un percussionniste. Donc
Oui.
en tant que batteur aussi, on entend des trucs où on se dit, tiens, c'est Damien ou c'est le
Oui.
percussionniste ou c'est d'où ça vient? Et
Mais, et ouais.
ouais,
Et au
c'est
montage, c'est quelque chose qu'on a trouvé incroyable, c'est de visualiser ce qui se passait. Et moi, j'avais jamais. Enfin, c'était une sacrée expérience, en fait. Tu sais, à un moment, il y a des gongs, genre. Et en les voyant, on les entend d'autant plus.
Ouais.
Alors qu'on pourrait passer à côté parce qu'ils sont un peu sous-mixés.
D'accord.
Et en les voyant, ils le sont plus. C'est très curieux le rapport à la vue et l'audition, entre la vue et l'audition. Et j'avais jamais fait attention à ça. Et Stéphane Edouard, en plus, c'est un percu incroyable. Et je l'avais rencontré quand je jouais dans Sixsun avec Michel Alibo,
Ouais.
qui était les basses et les percussions de Sixsun. Et il a un set bien à lui. Et du coup, il nous amène des sonorités aussi différentes. Enfin, c'est vraiment agréable. Et ce groupe sans percu, c'est plus le même groupe, vraiment. Ça sonne différemment. Et puis, enfin, voilà. Puis il a un time de fou et on s'entend vraiment bien. Des fois, on fait des breaks, on fait les mêmes, mais sans se consulter parce que c'est sur le moment. Et
Ah
c'est
ouais.
assez, ouais, c'est vraiment un ressenti du moment. On est assez connectés, donc c'est, enfin. Moi, je suis vraiment content, hein, qui m'ait dit oui pour le groupe. Et on parle tout à l'heure, tu parlais des musiciens. En fait, c'est tous des amis de. Ça fait plus de 10 ans que je les connais tous.
Ouais.
Et Yann, le guitariste, je le connais depuis 2002 peut-être. Mika, pareil, 2002, 2003, des claviers. Fred, un petit peu plus tard. Et puis bah, Stéphane et Michel aussi. Enfin, tous, en tout cas, ça fait minimum 10 ans. Donc c'était aussi une joie de pouvoir monter ce groupe avec tous ces musiciens et amis avant tout, et qui sont tous très pris. Ils font tous des carrières incroyables en France. Ils jouent tous avec ou des artistes de pop ou dans le jazz, mais ils sont tous énormément pris. Donc, j'espère qu'ils auront du temps, en tout cas pour
Ouais,
Damenco.
bah j'espère aussi. Et je vais me les refaire après cette interview, là, réécouter les différents enregistrements parce que c'est assez extraordinaire. C'est très particulier et en même temps c'est une musique de musicien. Mais j'ai envie de dire pas tellement. J'ai le sentiment que des musiciens ils trouvent de toute façon leur compte. Il se passe tellement de choses intéressantes musicalement. Et pour quelqu'un qui n'est pas musicien, c'est pas trop non plus un truc d'intello
Non, mais
trop complexe quoi.
c'était exactement l'idée.
Ouais.
Parce que comme je te disais tout à l'heure, la musique c'est un langage universel et moi je viens du bal. Donc moi à la base je
Ouais.
fais pas partie de cette classe d'intello, d'intellectuels de la musique. Et souvent j'ai beaucoup de mal avec eux d'ailleurs, parce qu'on conçoit pas du tout la musique de la même façon. Pour moi ça reste un langage et c'était important que ça reste qu'on puisse jouer la musique comme on l'entend. Genre que je puisse jouer de la batterie comme j'ai envie de jouer de la batterie, que chacun puisse prendre un solo, que tu vois. Mais Mais que n'importe qui puisse écouter cette musique et que ce soit hyper plaisant à écouter. Et c'était pas forcément un challenge, mais en tout cas, c'était mon but. Et puis, bah, visiblement, je suis très content parce que ça a l'air de toucher pas mal de monde. Alors, je crois que c'est réussi.
Ouais, c'est
Et
cool.
ouais, carrément.
Ok, alors bah génial, merci beaucoup. Et pour finir, j'aimerais que tu donc là maintenant tu vis à Paris,
Oui,
mais
depuis un an, oui.
depuis un an. Mais
Oui.
avant, tu vivais, enfin t'as fait un petit tour à Los Angeles. Alors que t'es français, t'as grandi en France, mais t'as vécu
Oui.
aussi à Los Angeles.
Oui, tout à fait. Bah, parce qu'à Paris, en fait, il me semblait avoir fait le tour. Tu sais, c'est vraiment, quand je parlais de l'alchimiste tout à l'heure, c'est parce que c'est vraiment ça. J'avais l'impression d'avoir fait le tour et je voulais aller chercher quelque chose d'autre ailleurs. Et donc, j'ai bougé à Los Angeles. Et puis pareil, à Los Angeles, à un moment, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la culture en fait américaine.
Ouais.
C'est quelque chose qui, pour nous, Européens, trop poli pour être honnête, je sais pas, tu vois, c'est un peu ça le.
Ouais, je partage complètement ton avis et c'est quelque chose. Donc moi je vis en Amérique hein,
Oui, en plus, donc tu sais de quoi
depuis
je parle.
depuis 2 3 ans et c'est hier je mangeais avec un comme je te disais avant hier j'étais chez un Américain, chez une personne et quand je suis rentré, c'est une personne que je connais peu, que j'ai rencontrée il y a peu de temps. Et quand je suis rentré, ma femme a dit, ouais, c'était comment alors? Il est comment, John? Et tout ça. Et je lui ai dit, bah écoute, c'était génial. Et j'ai adoré. Et alors, un petit exemple tout bête, mais j'ai amené un smoothie. J'avais fait un smoothie pour le dessert. Et il était pas bon. Il était trop sucré. Et il me l'a dit. Et j'ai adoré qu'ils me disent, ah non, écoute, j'aime pas, c'est trop sucré, qu'ils me le disent poliment, parce que généralement, c'est pas quelque chose qu'ils vont dire. Ils vont dire, non, non, ça va, c'est, voilà. Et ouais, trop poli pour être honnête, quoi. Je reconnais tout à fait ce que tu dis là. Et, on peut pas généraliser. Tous les Américains ne sont pas comme ça.
Non, bien
Mais
sûr que non.
c'est quelque chose que je comprends tout à fait ce que tu dis. Je le vois régulièrement. Et c'est vrai qu'il y en a,
Puis il y a ça,
il y a trop
puis.
ça, ouais, trop poli.
Ah ouais. Et puis tout est de l'intérêt. Alors peut-être moi où tu vis, mais New York ou Los Angeles, c'est énormément d'intérêt. Puis en plus, Los Angeles, c'est la ville du cinéma. Donc ils sont tous acteurs ou je sais pas quoi. Mais ils travaillent au 7-Eleven, tu sais.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire. Enfin, en même temps, tout le monde tente sa chance, c'est chouette. Mais du coup, t'es entouré d'un espèce de monde virtuel où finalement tu peux compter sur personne parce que tout le monde est là par intérêt. Et si tu n'as aucun intérêt pour eux, bah, ils te zappent en deux-deux. Donc tu vas être à une soirée, ça va être super. Le mec trop poli pour être honnête, il va te dire, ah, c'est super de te rencontrer, c'est génial. Et puis tu vas lui dire, ouais, bah cool, toi tu fais quoi? Ou je sais pas quoi. Il va te dire, puis toi tu fais quoi? Quand tu vas lui dire ce que tu fais et que ça n'a pas d'intérêt, il va continuer à être super génial. Et si tu le recroises le lendemain, il va pas te calculer, il va pas te dire bonjour ou quoi.
D'accord.
C'est vraiment Los Angeles. Donc, je pouvais pas rester dans un endroit où je peux pas faire confiance aux gens.
Tu t'es pas
Où je...
senti à ta place, ouais, t'as
Ah,
pas
pas du tout.
fusionné
Non,
avec
non,
le.
pas du tout. Pas du tout. Puis il y avait aussi cette histoire de la musique, c'est beau, mais c'est des cercles, pour y rentrer, c'est compliqué. Puis moi, je voulais surtout arrêter la batterie quand je suis allé là-bas. J'avais déjà ce truc-là qui me tenait. Et puis en France, je jouais tellement, 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 tellement. Et je suis parti en me disant, OK, bah maintenant, j'ai beaucoup joué, c'est super. Mais j'avais passé, jour pour jour, j'avais compté. J'avais passé, je crois que c'est 75 jours chez moi la dernière année avant de partir. Ça veut dire que j'étais tout
Ok.
le temps en tournée, j'étais jamais là.
Ouais.
Et j'en avais marre, j'avais envie d'être chez moi, j'avais envie de composer de la musique, j'avais envie, puis j'ai toujours aimé la musique de film, donc j'ai étudié ça un peu à ce moment-là, je me suis remis à apprendre l'harmonie, la composition, tu sais, tout ça, donc, et puis je voulais rentrer dans des prods aussi, et donc c'est des cercles fermés, tu peux pas y rentrer comme ça, enfin, tout prend du temps, évidemment, mais là, clairement, c'est pas le bienvenu, quoi. Et puis,
D'accord.
ouais, c'était très compliqué, et puis après, la musique, c'était très du m'as-tu vu, du tout ça, les artistes. Alors après, t'as plein de musiciens que j'adore et qui sont des amis là-bas, qui justement sont moins américains parce qu'ils ont voyagé, parce qu'ils ont plus rien à prouver, et ils sont adorables. Mais souvent, les trois quarts de mes amis là-bas, c'est quand même des gens qui ne sont pas américains. Comme Virgil Donati, Thomas Lang, c'est pas des américains, même s'ils vivent à Los Angeles.
Ouais.
Thomas, il est autrichien, Virgil, il est australien, et c'est de très bons amis, mais justement, ils ne seront pas américains. Et j'ai plein d'amis là-bas qui ne sont pas américains. Et d'ailleurs, si tu parles avec des étrangers là-bas, on s'est demandé, même avec j'avais un ami brésilien, l'autre qui est un japonais, mais on se demandait comment ils faisaient, les Américains, pour s'aimer, pour être ensemble, en fait. On comprenait pas à un moment comment ils faisaient même pour se mettre en couple. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui... Bon, là, je fais une parenthèse, mais il y a beaucoup de couples qui divorcent. Enfin, je sais pas si tu as remarqué ça, mais parce que eux, ils voient le couple comme une team. Donc, dans une team, on est ensemble, on fait des choses et machin, donc faut gagner. Mais dès qu'il y en a un qui perd son boulot, qui a plus d'argent ou je sais pas quoi, bon, on divorce. Parce qu'il peut plus faire partie de la team. Parce qu'il a plus les moyens d'en faire partie. Il peut plus subvenir aux besoins de la team, en gros.
Ouais, je vois ce que tu veux dire et c'est marrant parce qu'en
C'est
tant
pas de l'amour,
que
ça.
c'est autre chose effectivement, c'est et le j'ai l'impression de ces discussions d'expatriés, je les ai aussi et le mes amis, les amis que j'ai ici, les personnes avec lesquelles je suis le plus proche sont des expatriés, ce sont principalement des Français d'ailleurs et après des personnes qui viendront d'autres pays, d'autres expatriés, brésiliens notamment. Et c'est quelque chose qu'il y a un entre-soi. On est tous dans la même galère en tant qu'immigrants de venir et de la galère du visa, la galère de des fois de comprendre les trucs culturels américains, etc. Enfin bref, de venir dans un nouveau pays quoi. Hein. Il y a un entre-soi quand on est immigrant, c'est pas facile d'être immigrant quoi, de venir dans un pays. Donc oui,
C'est
ça me
sûr.
parle complètement ce que tu dis là. Ouais.
Alors voilà.
Ok. Bah écoute, merci
Et...
beaucoup pour tout ce partage. Est-ce qu'il y a une idée ou quelque chose d'autre que tu voulais partager avant la fin de cette interview?
Écoute, non. Non, en fait, j'ai souvent les questions, qu'est-ce que je peux faire pour être professionnel? Bah, en fait, c'est simple, il suffit de se montrer. Donc, il y a plusieurs solutions, mais essayer de trouver des jams et d'aller se montrer, de commencer à monter des groupes, ou comme tu disais tout à l'heure, essayer de chercher des musiciens pour jouer ou quoi. Mais en tout cas, en France, à un moment, si vous voulez vraiment faire ce boulot et si vous voulez vraiment le faire avec ambition, il n'y a pas 36 solutions. Faut venir à Paris. On peut faire ses classes en province, c'est pas un problème, mais aujourd'hui déjà les temps sont durs et les tournées et les artistes, ils vivent à Paris. Donc c'est ici que ça se passe en fait. Et alors après, pour ceux qui vont débouler, pour ceux qui déboulent déjà, ou il y a quelques clubs à connaître qui sont le Baiser Salé.
Le baiser salé, d'accord.
Oui, et là c'est rue des Lombards. Et la rue des Lombards, c'est il y a le Duc des Lombards qui est un club où il y a des toutes sortes de personnes, c'est très jazz. Ensuite, il y a le Sunset Sunside. Là, c'est il y a une partie qui est très jazz et il y a un sous-sol. Enfin, il y a des concerts aussi dans une salle, mais qui est au sous-sol et là qui est plus funky. C'est là où on a joué avec Damenco d'ailleurs. Et il y a le Baiser Salé où là il y a des jams tous les lundis, qui est la jam de François Constantin, et il y en a une aussi tous les dimanches, et c'est le meilleur moyen de rencontrer des gens. Moi, c'est là que j'ai rencontré Adrien Ferraud, bah Michael qui est dans mon groupe Le Coq, qui est clavier. C'est là où j'ai rencontré Jean-Marie Ekaï et puis plein d'autres musiciens, Étienne Mbappé entre autres, que j'avais rencontré là-bas la première fois que j'y allais. Et il y a un autre club où il y a des jams le mercredi. Qui sont des jams un peu soul, funk, hip-hop, et le jeudi où il y a des jams fusion, et le dimanche où il y a une jam blues, et c'est le caveau des oubliettes. Et voilà, je pense que pour rencontrer du monde, en tout cas, c'est l'idéal.
Ok, super. Je viens de prendre note. Je le mettrai dans l'article aussi sur mon blog, hein, pour ceux qui écoutent ça sur YouTube ou sur iTunes. Donc, Baiser Salé, Sunset Sunside et Caveau des
Des
Oubliettes.
oubliettes,
Ok,
voilà.
je vais mettre les liens de leur site sur le blog, comme ça on pourra y accéder. Bah, merci pour le partage des bons plans. C'est cool.
Ben non, de rien, si ça peut aider et promettre de nouveaux musiciens, on va se gêner, tiens.
Ouais, bien sûr. Et je pense à Austin Kleon, qui est un écrivain américain, qui disait quel est le meilleur moyen d'être successful, quoi, de réussir, c'est de faire du bon boulot et de le partager. De faire du bon
Ouais.
boulot et de faire savoir aux autres qu'on fait du bon boulot. Donc oui, montrez-vous, allez dans les clubs, ayez une chaîne YouTube où vous montrez ce que vous faites, etc.
Exactement.
Partagez votre boulot. il y a que les magiciens qui ne peuvent pas vraiment partager leur boulot parce que s'ils montrent leur trick, il y a plus de ça marche plus. Mais on n'est pas des magiciens, donc ça marche pour nous.
Voilà.
OK, bah super, merci beaucoup
Daniel. Merci Aurélien.
Ouais,
merci à toi.
C'était vraiment super, tu as une belle énergie, ça fait plaisir.
Ah bah écoute, merci. On fait ce qu'on peut.
Yes. À très bientôt, porte-toi bien.
Et bah à très bientôt. Salut à tous et puis bah voilà, bonne continuation, j'ai envie de vous dire.
Yes, salut.
Salut.